Ah, que ça fait du bien de se retrouver sur Ami avec Charles, surtout quand on a décidé de prendre l'air. Vous savez, Charles, c'est ou alors on parle de jeux vidéo, ou alors on prend l'air. Et là, aujourd'hui, on prend l'air, mon cher Charles. Salut.
Salut Guillaume, comment ça va ?
Eh bien, écoute, ça va très très bien. Donc, j'ai attaché ma ceinture de sécurité. Je suis prêt au décollage et je t'écoute tout ouïe.
Eh ben écoute, ça me fait plaisir de te retrouver pour parler d'un truc, un système quand même qui m'a trotté dans la tête parce que je savais pas exactement ce que c'était. J'ai fait mes petites recherches quand même pour bien comprendre qu'est-ce qui se cachait sous le terme de fly by wire, ou en français dans le texte, commande de vol électrique. Je me dis mais commande de vol électrique, mais oui, enfin, quasiment tout est électrique dans un avion, ou alors c'est les vérins, parce que je sais qu'il y a des vérins hydrauliques, mais alors il y a des vérins électriques, mais comment ça marche, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Et donc, j'ai fait mes recherches et j'en sais depuis bien plus. Et j'avais envie un peu de partager ça avec vous, parce que les auditeurs d'Ami, et toi Guillaume, bien évidemment, parce que tu sais bien que je trouve ça fascinant, le monde des avions, et ce système-là en particulier. Donc, je vais essayer de schématiser le plus possible pour montrer la différence entre un avion qui est en commande de vol électrique, fly-by-wire, et un avion qui ne l'est pas. Donc, on va comparer deux avions, un petit avion, où il y a quatre places à l'intérieur, pilote, copilote et deux passagers, et on va prenez n'importe quel avion avec des commandes de vol électrique, on va prendre, je sais pas moi, un A320 par exemple. La différence entre ces deux avions, c'est que dans le petit avion, il y a le manche qui est qui vous pouvez le bouger, hein, et voilà, vous pouvez faire pivoter droite gauche et devant derrière, et vous avez aussi des commandes sur ce qu'on appelle les palonniers, donc c'est les pédales en fait. Donc, si vous poussez sur la pédale de droite, la pédale de gauche revient vers vous. Si vous appuyez sur la pédale de gauche, la commande de droite, la pédale de droite revient vers vous. Et donc le palonnier avec le manche, ça permet de déplacer ce qu'on appelle des surfaces, certaines surfaces de l'aile et de l'avion qui vont permettre de le bouger. Et le lien entre le palonnier et le manche et ces surfaces, et ben ce sont des tringles, ce sont des câbles, ce sont des poulies, et donc on a une loi directe, on a une loi directe entre une inclinaison du manche et si vous inclinez le manche d'une telle manière, ça va tirer la poulie d'une telle manière. Ça va tirer le câble d'une certaine manière. Le câble, il peut pas. C'est pas un câble à caoutchouc, c'est un vrai câble en acier. Donc une position du manche égale une position des surfaces sur l'avion. Et donc, la différence avec un avion en commande de vol électrique, c'est qu'un avion en commande de vol électrique, on a le manche qui va faire bouger des servomoteurs et des capteurs qui vont convertir la position du manche en un signal électrique. Le signal électrique, on va le voir après, va être traité et il va être envoyé aux commandes via des câbles électriques tout simplement, plutôt que des poulies et des câbles, et donc ils arrivent, le signal arrive vers les commandes où là le signal est transformé de nouveau en un mouvement. Donc on avait une transformation depuis un mouvement vers un signal électrique au niveau du joystick, du manche, et là on a l'inverse, on a le transformé d'un signal électrique vers un mouvement à travers soit un vérin électrique soit un vérin hydraulique, et donc c'est ça qui va faire bouger l'avion. Donc il faut savoir que les avions qui sont en fly-by-wire, c'est principalement les avions d'Airbus. On va voir pourquoi après. Et on a encore, moi je trouvais ça étonnant, je pensais pas du tout, on a encore des avions commerciaux, des gros avions commerciaux qui sont en non fly-by-wire, c'est-à-dire avec des câbles et des poulies, notamment le 737 et le 747, voilà, des avions d'Airbus. Et moi j'ai trouvé ça incroyable, quoi, parce que quand tu vois la taille de l'avion et que tu te dis que c'est le bonhomme aux commandes qui tient.
Attends,
tout ça.
Excuse-moi, mais tu parlais du 737 et du 747, c'est ça?
Ouais.
Parce que tu as dit derrière les avions d'Airbus, tu voulais dire les avions de Boeing.
Oui, excuse-moi. Oui, les avions de.
Ah,
les avions
oui, parce que je me dis, attends, je vais quand même le couper, parce que bon,
mais
là, il y a.
Oui,
ah, ouais, d'accord, ok.
Et moi, je trouvais ça incroyable que des avions aussi gros puissent être encore dirigés avec des câbles et des poulies, tout simplement. Mais donc, bien évidemment, vous pouvez vous imaginer que des avions aussi gros, surtout le 747, la force d'un homme ne suffirait pas pour bouger les commandes de vol qui sont massives. Et donc, en fait, il y a toujours, donc le mouvement est transmis via des câbles et des poulies, mais il est augmenté un peu de la même manière que une direction assistée augmente, c'est-à-dire que le travail fourni est principalement fourni par des systèmes hydrauliques, en fait, pour aider le pilote. Mais il y a toujours une loi directe entre la position du manche et l'inclinaison de certaines parties mobiles de l'avion. Donc si on fait un peu d'histoire avec
Je te coupe tout de suite parce que tu sais que je suis là aux 1000 questions. Moi, il y a quand même une question qui me taraude, tu te doutes un petit peu laquelle, c'est quid de la fiabilité sur les deux systèmes? Quel est le plus fiable? Je suppose que les deux sont plus qu'hyper fiables. Un câble, sur ce genre de choses, c'est pas comme un câble d'accélérateur de mobilette, ça doit pas péter. Mais s'il y a une panne électrique, comment ça se passe s'il y a plus de câble?
C'est une excellente question, Guillaume, et j'avais envie d'y revenir un peu plus tard. Je vais te
faire excuse-moi. Continue.
Avantages, désavantages du système fly-by-wire et qu'est-ce qu'on peut faire en cas de panne, effectivement. J'avais envie, avant ça, de faire un petit peu d'histoire, parce que voilà, hein, c'est pas un système qui date d'aujourd'hui, quand même, le fly-by-wire, alors qu'on pourrait le penser. Hein, les premiers à avoir recherché ça, c'est les Russes de Tupolev qui ont commencé à rechercher ça dans les années 1920 et qui, en 1930, ont commencé à installer ça sur leur Tupolev ANT-20. Et ben pourquoi cet avion-là? Tout simplement parce qu'il était massif. C'était un avion qui était vraiment très 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 grand. Il était très 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 lourd. Il s'était inspiré des avions allemands qui utilisaient des tôles ondulées pour faire leurs avions et qui rendaient les avions mais des pachydermes incroyablement lourds. Et cet avion, il avait besoin de 8 moteurs. Il avait 3 moteurs sur chaque aile, donc ça fait 6 au total. Et il avait une petite nacelle, c'est absolument ridicule. Il avait une petite nacelle sur son dos où il y avait un moteur à l'avant et un moteur à l'arrière de la nacelle, donc ça fait 8 au total. C'était vraiment un très très gros avion. Et ils ont décidé on le verra pourquoi plus tard dans les avantages et désavantages. Ils ont décidé d'installer les commandes de vol électrique sur cet avion. Et alors, petite parenthèse, petite anecdote sur le Tupolev ANT-20, Maxime Gorky, comme je te parlais, c'était une machine de propagande, c'était incroyable. C'était donc la propagande russe, hein, de l'époque. Hein. Et dans cet avion, il y avait une salle de cinéma avec un projecteur. Il y avait, enfin, une salle de cinéma, c'était pas un gros gros cinéma, mais il y avait une salle avec un projecteur. Il y avait une bibliothèque. Il y avait une imprimerie pour imprimer des petits feuillets et les balancer depuis l'avion pour faire de la propagande. Il y avait une station de radio, comme on est un peu en train de faire. Oui, c'est vrai, une station. Voilà, si jamais t'as pour projet d'installer Ami dans un avion, je suis là, hein, je suis là. Ne m'oublie pas. Et il y avait, quoi d'autre? Il y avait un mégaphone, un haut-parleur que les gens ont dénommé, je trouve ça incroyable, la voix du ciel. Je trouve ça, c'est incroyable. Et en fait, depuis l'avion, avec le haut-parleur, il disait sur les gens, ouais, parti communiste, tout ça. Donc voilà. Petite anecdote refermée sur ce drôle d'avion qui est le Tupolev ANT-20 Maxime Gorky. Voilà, un avion quand même assez atypique. Pour revenir au fly-by-wire, ce n'a pas été le seul à l'utiliser. On le retrouve aussi, allez, c'est pas un avion, mais ça vole quand même. C'est un véhicule d'atterrissage lunaire pour les missions Apollo. Donc si vous cherchez sur Wikipédia véhicule d'atterrissage lunaire, vous verrez qu'il y a eu 3 crashs sur ce véhicule. Il y en a un, je crois qu'il y a Louis Armstrong qui était dedans, mais alors c'était pas la cause n'était pas le fly-by-wire, et il y a eu 2 crashs à cause du fly-by-wire qui était installé sur ce véhicule d'atterrissage lunaire, parce que encore à l'époque, surtout les Américains n'étaient pas ultra à fond là-dedans dans le fly-by-wire. Ils étaient pas une technologie qui maîtrisait parfaitement. Donc il y a eu 2 crashs de ce véhicule d'atterrissage lunaire en 78 et en 71. Mais bon, voilà, on voyait que c'était une technologie qui qui intéressait quand même pas mal de monde et qui commençait progressivement à s'installer. Et donc, j'ai envie de revenir. Alors pourquoi on installerait un fly-by-wire plutôt que un système classique avec des poulies et des câbles? Bah, tout simplement, en premier lieu, pour réduire le poids. Voilà, comme je l'ai dit, pour le Tupolev, c'est un avion massif, il était extrêmement lourd, et les ingénieurs russes se sont dit non, mais si on rajoute en plus des gros câbles, des gros vérins, des grosses poulies, l'avion il décollera jamais. Donc ils se sont dit ok, on passe tout en électrique, parce qu'un câble électrique c'est bien plus léger qu'un câble métallique, quoi, avec des poulies, tout ça. Et donc ils se sont dit ça. Pareil pour le véhicule d'atterrissage lunaire, on sait très bien que ça coûte extrêmement cher d'envoyer un seul kilo dans l'espace, donc si on peut réduire le poids du véhicule, bah c'est très très bien. Donc les objectifs des commandes de vol électrique fly by wire, c'est réduire le poids, augmenter la sécurité. Et pourquoi augmenter la sécurité? Ben c'est très simple. On va faire une petite expérience de la pensée. Si on est on retourne dans notre petit avion de tout à l'heure, le 4 places. Et ça, si vous avez Flight Simulator, je vous invite à l'essayer, vraiment essayer la petite expérience que je vais vous dire. Mais sinon, croyez-moi sur parole, je suis pilote, je vais pas me l'envoyer des lauriers comme ça quand même. Mais croyez-moi sur parole, quand même, c'est une expérience qui est très simple à faire. Si vous êtes en avion et que vous mettez l'avion en virage, c'est-à-dire que vous prenez le manche, vous le poussez un peu sur la gauche, admettons. Votre avion était avant à vitesse constante, il avait une vitesse de croisière, il avait une altitude de croisière, il ne bougeait pas. Si vous mettez l'avion en virage à gauche, donc l'avion il se penche légèrement sur la gauche, vous verrez de 1 que sa vitesse va réduire, son altitude va réduire, il va commencer à descendre très légèrement, mais il va commencer à descendre, et le vol, on va dire qu'il ne sera plus, il est qualifié de plus symétrique, c'est-à-dire que l'avion va commencer à un tout petit peu à se pencher, pas se pencher à gauche comme il faisait avant, mais se tourner sur lui-même, sur un axe vertical en fait. Si vous transpercez l'avion d'une flèche verticale qui passe par le dessous et qui remonte vers le haut, et ben il va tourner autour de cet axe lors d'un virage. Et ça, c'est lié à des phénomènes aérodynamiques et on n'y peut rien. Ce sera toujours comme ça dans votre avion. Donc pour la symétrie du vol, ça se voit sur l'instrument qu'on appelle la bille. Si vous prenez votre petit Cessna, votre petit avion dans Flight Simulator, vous faites l'expérience, mettez le manche à gauche, vous verrez que vous commencerez à descendre, la bille va partir et vous allez perdre de la vitesse. Et donc c'est autant d'actions que le pilote doit contrecarrer. Donc il doit ajouter un petit peu de gaz, il doit tirer sur le manche pour pouvoir ne pas tomber, pour garder son altitude, pour empêcher la descente, et il doit contrecarrer la bille avec le palonnier, les fameuses pédales qui sont au pied dont je parlais tout à l'heure. Donc c'est quand même trois actions en plus du virage, quoi. Donc c'est assez prenant. Faire un virage, c'est pas aussi simple que ça. Et deuxième chose aussi, deuxième petite expérience, si on retourne en vol normal, à une certaine altitude et à une certaine vitesse, si vous vous mettez à tirer sur le manche, l'avion va monter, mais dès que vous allez relâcher le manche va revenir à son point d'équilibre neutre, un peu comme s'il était sur ressort, et l'avion va arrêter de monter et il va se remettre dans sa position de croisière, elle à plat, il n'est plus en montée, il n'est plus en descente, il était comme avant. Et encore une fois, c'est lié à des phénomènes aérodynamiques qui poussent l'avion à rester dans un écoulement entre guillemets fluide, parce que l'air qui va taper sur les différentes parties de l'avion vont le repousser à le mettre dans l'état dans lequel il était juste avant, c'est-à-dire aile à plat et le nez vers l'horizon. Et donc voilà, c'est encore donc si vous voulez faire une montée assez longue avec un avion classique, il vous faudra tenir le manche jusqu'à ce que vous en aurez plus bien. Mais tout ça, toutes les petites contre-actions aérodynamiques dont je viens de parler, c'est dû passer avec les commandes de vol électrique, parce que en fait, tout simplement, puisque le signal qui va sortir du manche, on va pas l'envoyer directement quand même dans les commandes de vol. Il va être traité via un certain nombre d'ordinateurs. Et les ordinateurs vont faciliter la vie du pilote. C'est-à-dire que je vous invite encore une fois, si vous avez Flight Simulator 2020, à faire l'expérience. Vous prenez cette fois-ci un avion qui a des commandes de vol électriques et vous vous mettez en virage. Vous êtes à vol en croisière, vous vous mettez en virage et là, incroyable, vous verrez que votre avion se mettra en virage, mais qu'il gardera son altitude. Que le vol restera stable, c'est-à-dire le vol restera symétrique, et il va garder sa vitesse, tout simplement parce que l'ordinateur qui est à bord, enfin les ordinateurs qui sont à bord de l'avion vont voir le signal, vont analyser le signal qui sort du joystick et vont se dire ah ok d'accord, il tourne de temps, et ben alors je sais que s'il tourne de temps, je vais appliquer tant de dérives pour corriger la bille, je vais tirer un petit peu sur le manche à telle proportion pour garder l'altitude, etc. Et de la même manière pour l'autre petite expérience que j'ai proposé de tirer sur le manche pour monter, et bah même chose, si vous êtes dans un avion Airbus, que vous tirez sur le manche pour monter, votre avion va monter, et si vous relâchez le manche certes revient à sa position neutre, mais l'avion continue de monter parce que les ordinateurs de bord ont compris que le pilote a tiré un petit peu sur le manche, ok, ça voulait dire qu'il voulait se mettre en montée de tant de degrés, 1 ou 2 ou 3 degrés, ok, je maintiens ces 3 degrés, et s'il veut revenir à normal, et bah, il aura juste à pousser un petit peu sur le manche, le remettre, le relâcher pour qu'il revienne en position neutre, et l'avion se remettra sur un vol horizontal. Donc, les ordinateurs, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a 9 sous 4 types différents, les fameux ordinateurs dont je parlais qui analysent les signaux. Donc les 4 types différents, c'est les ELAC, SEC, FAC et SFCC. Donc ils contrôlent certaines parties, ils sont spécialisés pour certaines parties de l'avion. Si je prends les ordinateurs ELAC, il y en a 2, et ELAC c'est pour élévateur et aileron, et c'est computer, bon voilà c'est tout de l'anglais, hein. Élévateur et aileron, donc élévateur c'est les commandes qui sont tout à l'arrière de l'avion, le plan horizontal qui permet de faire lever ou baisser le nez de l'avion, et les ailerons ce sont les petites surfaces au bout des ailes qui permettent de l'incliner à droite ou à gauche. Donc comme on voit vis-à-vis de ce que je disais avant, c'est très très intéressant parce que voilà, comme dès qu'on va faire un virage à droite ou à gauche, on va perdre de l'altitude, donc il faut toujours coordonner les ailerons, ce qui nous font tourner à gauche ou à droite, avec l'élévateur qui nous fait monter ou descendre. Voilà, généralement quand on fait un virage en aviation, dans un avion, n'importe quel avion, on combine toujours, même instinctivement, les ailerons et l'élévateur. Mais avec les avions fly-by-wire, ce n'est plus la peine de combiner les deux, l'avion le fait pour vous. Ensuite, un autre ordinateur, c'est spoiler et élévateur. Les spoilers, ce sont des sortes de freins qui vont casser la portance sur les ailes. Et élévateur, comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours la même surface. Cette fois-ci, il y en a 3 de cet ordinateur-là, de 3 itérations des ordinateurs SEC. L'ordinateur FAC pour Flight Augmentation Computer, donc il y en a 2, et c'est lui qui va s'assurer que le vol est symétrique à tout temps, et il va s'assurer aussi d'autres choses, on va en parler un tout petit peu après.
Mais excuse-moi, je te coupe, quand tu dis par exemple il y en a 2, c'est pour faire de la redondance, j'imagine.
Exactement, si jamais il y en a un qui tombe en panne, on en a toujours un deuxième.
D'accord, ok, c'était bien ce que je pensais, mais je voulais ta précision.
Ouais, non mais pas de soucis. Et donc le dernier ordinateur, SFCC, pour tout ce qui est dispositif hyper sustentateur. Donc là, c'est pas des surfaces qui vont permettre à l'avion de tourner, de monter, de descendre, etc. Ce sont des surfaces qui vont modifier la géométrie globale de l'aile et qui vont augmenter la portance et qui permettent par exemple de réduire la vitesse de l'avion.
Bah écoute Charles, merci beaucoup, c'était passionnant. une fois de plus, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis si vous avez envie qu'on développe un sujet avec Charles, aussi bien sur le domaine de l'aérien que sur le domaine du jeu vidéo, 01 76 21 18 10. Charles, à bientôt.
À très bientôt.